Il semble que la décision qui est à prendre en matière de choix pour un mariage ne diffère pas fondamentalement de tous les choix que le chrétien a à faire au niveau de la méthode. Sauf que là, c'est un choix d'importance. On voit bien que dans nos vies, il y a des choix d'importance diverses, et quand nous avons un choix à faire qui porte à conséquence, soit un choix de choses coûteuses, par exemple, nous faisons très attention de voir comment nous pouvons aller pour faire tel et tel choix. Et bien ici, c'est sans doute une démarche qui est la même, avec cette promesse que le Seigneur a donnée à ceux dont la transgression a été pardonnée et dont le péché a été couvert. Je t'instruirai, c'est le psaume 32, je t'instruirai et je t'enseignerai le chemin où tu dois marcher. Je te conseillerai ayant mon œil sur toi. Je te conseillerai ayant mon œil sur toi. Il y a un chemin où nous devons marcher, qui est préparé par Dieu, c'est ce que Bernard a dit. Et Dieu vient nous dire, je te conseillerai. C'est-à-dire, si tu fais attention, je te donnerai tous les moyens nécessaires pour exercer ton choix, pour toutes les circonstances de la vie, mais particulièrement pour celle-là.
Le Seigneur nous en donne un exemple, en Luc 6, quand il fait le choix de ses disciples. Il passa toute la nuit à prier Dieu, et quand le jour fut venu, il appela ses disciples et en choisit 12 d'entre eux. Notre Seigneur, qui avait la connaissance de toutes choses, quand il a eu ce choix qui était placé devant lui, a passé toute la nuit à prier Dieu. Modèle que nous avons à imiter. Je pensais aussi à autre chose. On a dit qu'effectivement, la parole nous dit que se marier, c'est bien, et qu'effectivement, c'est un désir légitime. Mais le Nouveau Testament a aussi donné une bonne part au célibat. Et il faut le reconnaître et ne pas dénigrer ceux qui peuvent avoir fait ce choix. D'autant qu'en rapport avec le dernier sujet, c'est souvent la seule thérapeutique qui pourrait être appliquée. En effet, nous savons que ce trouble de l'identité sexuelle dont nous avons parlé en fin d'exposé, est-ce inné, est-ce acquis, est-ce génétique? Toujours est-il qu'il y a une pulsion différente qui est condamnée par la parole. Mais le problème, c'est que ce n'est pas le... C'est toute la différence entre la pensée et l'acte. Le fait d'avoir des désirs différents ne sont pas un péché. Ce qui est péché, c'est accomplir un acte que nous avons vu décrit soit dans les Romains, soit dans commettre donc l'infamie mal avec mal. Là, c'est péché. Mais on comprend qu'un homosexuel qui vient à la connaissance de la vérité et qui se trouve ainsi dans l'impossibilité de changer de pensée, eh bien, il n'aura de refuge que dans la chasteté. Et c'est donc ce qui nous est présenté par Paul comme une voie qui plaît au Seigneur. Celui qui ne se marie pas fait mieux. Nous savons que, nous avons vu, on a dit qu'il n'est pas trop tard pour venir à Dieu et qu'effectivement il peut y avoir des... Il peut être opéré dans le cœur de... une modification profonde qui fait que l'orientation des sentiments peuvent changer. Cela s'est vu, Dieu l'a fait. Mais il y a aussi parfois cette persistance d'une pensée qui fait que, voilà, notre ami chrétien qui a ses pensées, eh bien, pourra s'en sortir avec la force que Dieu fournit en restant seul.
Ce sujet de l'homosexualité, parce que nous sommes des églises élitistes et dans laquelle en général soit ces choses sont rares, soit elles sont cachées et pas connues. Et apporter un soutien, je dirais, spirituel à des hommes et des femmes qui connaissent ces dérives est quelque chose de très difficile pour nous. Heureusement, Dieu a des serviteurs partout et il y en a qui se sont engagés dans ce ministère d'aide psychologique et spirituelle, avec souvent l'aide de frères et sœurs autour d'eux. Je crois que ce qui est important pour nous, c'est ce qu'a fait remarquer Bernard, c'est-à-dire quelle est mon attitude vis-à-vis de gens qui sont dans cette situation. Est-ce que je suis un juge? Ou est-ce que je suis un chemin vers Dieu? Est-ce que l'Église n'a pas aussi la mission d'accueillir ces gens-là, dans la mesure où il y a chez eux souvent, plus même que chez d'autres, qui ne sont pas tombés dans ce péché, une extrême grande sensibilité morale et souvent une recherche spirituelle? Et je crois que c'est notre regard qu'il nous faut peut-être effectivement un peu changer sur ces gens-là, tout en parlant le langage de la vérité qui, dans la parole, est très clair. On a vu ce texte biblique et dans Romains qui est tout à fait clair. Il y a des mots-clés. Dieu les a livrés. C'est le verbe qui revient au moins deux ou trois reprises. Pourquoi? Parce que ces gens, ils ont tout changé. Et c'est aussi le verbe qui revient. Ils ont changé la vérité de Dieu en mensonge, c'est-à-dire qu'ils ont justifié leur comportement par le mensonge. C'est ce qu'on voit aujourd'hui, en disant que bien, c'est un usage normal de la sexualité, que chacun est libre de vivre comme il entend. Qu'est-ce qu'ils ont fait aujourd'hui? On voit aussi qu'ils n'ont pas eu de sens moral pour garder la connaissance de Dieu, et Dieu les a livrés à un esprit réprouvé. C'est-à-dire qu'il y a le refus de la connaissance de Dieu. Je crois qu'il nous faut comprendre que Dieu est le Créateur et c'est à lui de définir les normes et pas à nous. Et voilà, il a défini des normes qui sont claires. Et pourquoi ces normes-là et pas d'autres? Il y a une expression qui est un peu difficile à comprendre quand il est dit « Ils ont honoré et servi la créature plutôt que celui qui l'a créée ». C'est-à-dire qu'ils ont considéré l'autre, qui est du même sexe, comme étant honorable et devant être servi. C'est une espèce d'adoration de la créature. C'est l'idolâtrie au sens le plus simple du terme. Et on a bien vu dans l'Ancien Testament que souvent les dérives sexuelles de tous ordres allaient de pair avec l'idolâtrie. Et c'est encore plus vrai chez les païens et pas seulement dans le peuple de Dieu qui s'est laissé contaminer par des pratiques païennes. C'est pour ça que le principe de se marier avec quelqu'un qui est un idolâtre, qui est un païen, est un principe général, que ce soit dans l'Ancien ou le Nouveau Testament, pour celui qui est enfant de Dieu ou qui est en relation avec Dieu. Alors c'est vrai que, comme Jean-Louis l'a dit, le célibat, qui est souvent d'ailleurs un célibat temporaire, est une des thérapies et probablement la plus sage. Dans ce cas-là, on a vu d'autres cas. On a vu des cas où, dès l'instant de la conversion, la question de l'homosexualité a pu être réglée. On a vu d'autres cas où il a fallu un cheminement plus long, plus difficile, accompagné avec la sollicitude de frères, de sœurs et de pasteurs, souvent, pour déboucher sur véritablement une guérison. Et je crois que là aussi, il faut comprendre que le but de Dieu, c'est de nous redonner notre humanité, notre vraie humanité. Que ces dérives sont une des manifestations du péché parmi d'autres. Il y a des gens qui sont plus portés, alors est-ce que c'est génétique ou pas, j'en sais rien, je ne vais pas entrer dans ces débats qui sont un peu vains, me semble-t-il, à faire telle ou telle chose. D'autres, peut-être parce que leur environnement les a un peu incités à cela, ils sont plus portés au mensonge, d'autres à ceci. Mais finalement, le problème, c'est que le péché a tout déréglé. Et à nous d'essayer d'avoir assez de compassion, tout en ayant cette franchise, cette vérité vis-à-vis de ce que la parole dit. Quant au mariage, je dirais juste un mot, ou deux, enfin quelques mots. Quelles sont les raisons pour se marier? La Bible en donne plusieurs raisons, qui sont d'ailleurs parfois un peu curieuses. Je ne sais pas comment vous comprenez, vous, si l'on couche à deux, on a de la chaleur. Ça me paraît un but un peu étrange quand même pour le mariage. Heureusement que la Bible nous donne des raisons qui nous paraissent quand même un peu plus, je dirais, je n'allais pas dire noble, mais quand même, comprenez ce que je veux dire. Genèse nous dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, c'est rompre la solitude. On a vu la dernière fois en Genèse 1 fructifier, assurer la procréation. Peut-être qu'on pourrait ajouter en Deutéronome 24 un verset, au verset 5 de Deutéronome 24. Si un homme a nouvellement pris une femme, il n'ira point à l'armée et il ne sera chargé d'aucune affaire. Vous voyez la grâce divine pour un jeune couple. Il en sera exempt pour sa maison pendant une année. Ce n'est pas un petit congé de quelques jours, comme on voit aujourd'hui chez les employeurs. Et il réjouira sa femme qu'il a prise. C'est-à-dire que dans le mariage, il y a à vivre le plaisir du couple. Il faut dire ces choses aujourd'hui parce que, un peu en réaction contre ce qu'on voit et qui s'étale en plein jour au niveau de la sexualité, on a tendance aujourd'hui à culpabiliser un peu sur ces sujets. Et je crois que la parole, elle est claire. Il n'y a pas de mal à être ensemble, bien au contraire, si c'est selon la pensée de Dieu. Et puis, le mariage représente la relation de Christ et son Église, c'est Éphésiens 5. Et puis, il y a d'autres raisons comme Ecclésiaste 4 que nous avons vu. Quant à la décision, je dirais un mot sur la décision, c'est que, comme Jean l'a dit, la parole nous donne des principes généraux, sauf ce principe fondamental de ne pas se mettre sous un joug mal assorti. Mais alors, on va dire oui, mais si j'épouse un non-converti, ce n'est pas bien grave. On entend beaucoup d'objections à ce verset de 1 Corinthiens. On dit, bien oui, mais mon conjoint se convertira. Ça, c'est arrivé, mais c'est très rare. C'est très rare et c'est joué peut-être un peu sur ses capacités ou sur la capacité de Dieu à bénir malgré nos désobéissances. La plupart du temps, le conjoint ne voit en son vis-à-vis que peut-être pas un principe suffisamment fort pour se convertir. Et puis, je crois que l'erreur, c'est de penser qu'on va changer l'autre. Ça, c'est une erreur qui nous est tous arrivée. Et ce n'est pas ce que la parole nous dit. La parole ne nous demande pas de changer les autres. Elle nous demande de changer nous-mêmes. Si nous voulons changer les autres, nous nous trompons. Et c'est de là que viennent beaucoup de difficultés dans nos mariages. Et puis on entend aussi dire, je serai libre de vivre ma foi. Ça arrive, mais là aussi c'est rare. Et souvent on voit l'abandon de la fréquentation de l'église locale. Et puis il y en a qui vont jusqu'à dire, ben, croyons ou pas, ça ne change pas grand-chose, ce qui est évidemment la négation même de ce que nous dit la parole. Si on entend cela, c'est que vraiment on peut douter que la personne qui dit ça soit chrétienne.
Que Daniel vient d'expliquer, il y a pour le chrétien totale liberté dans l'exercice d'une volonté personnelle. Texte cité par Bernard tout à l'heure, à propos des veuves, qui est beaucoup plus général, elle est libre de se marier à qui elle veut. Le terme est fort, à qui elle veut. C'est-à-dire qu'il y a des questions de convenance personnelle, en particulier dans ce domaine, qui font que, voilà, c'est des affaires qui ne regardent personne. Qui elle veut, avec la réserve seulement dans le Seigneur. Et ça en fait un principe très général, comme toujours dans l'Écriture, et qui laisse toute liberté aux croyants, éclairée justement par le Seigneur qui veut son bien.
Cette expression à qui elle veut, me semble-t-il. Parce qu'il ne suffit pas que les deux soient croyants pour que le mariage réussisse. Et ça, c'est aussi peut-être une idée qu'il faut un peu dénoncer. On dit, oui, mais c'est deux enfants de Dieu, donc ça va marcher. Hélas, l'expérience prouve que ça ne marche pas toujours, et de plus en plus fréquemment, malheureusement. Il faut qu'il y ait chez les deux, comme Bernard l'a dit, la volonté d'aimer. Et ça, c'est très souligné plusieurs fois dans la parole. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait une fois ou pendant quelques semaines. C'est quelque chose qu'on devrait, je dis au conditionnel, renouveler tous les jours. Certains ont comparé le mariage un peu à un voyage dans un pays lointain. Quand on arrive, on est émerveillé par tout ce qu'on voit. Ça dure un mois, 2 mois. Mais si on reste 20 ans, après, souvent, on a un peu changé d'avis. Eh bien, essayons de renouveler notre amour pour l'autre quotidiennement.
Sur le choix du conjoint, on voit que Dieu a placé la famille au centre de sa création, l'homme et la femme, et disons, toute notre personnalité découle de notre famille, de ce que nous avons vécu. Et certainement, si on, pour les jeunes, quoi, disons, souvent on regarde à l'apparence, si on trouve la jeune fille ou le jeune homme beau, et souvent on ne s'intéresse pas à la famille. Et quelqu'un qui a été aimé aura plus de facilité à aimer que quelqu'un qui a été maltraité. Ou... Et la famille est quelque chose de très important. Et là, on dit qu'on est libre de se marier avec qui elle veut, qui on veut. Et le dicton qui dit « Si jeunesse savait et si vieillesse pouvait », certainement que ce qui se passait en ancien temps n'était pas toujours bon, parce que les parents choisissaient la place des enfants, et souvent c'était par intérêt et non par des choses d'équitable pour leurs enfants. Mais je pense que autant que possible, cherchez des conseils auprès de vos parents sur leur expérience et sur ce qu'ils pensent aussi de la famille, de ceux que vous intéressez. Dis-moi, voilà notre... C'est pas que ce sera pas possible, mais justement pour dire que quelqu'un qui est aimé sera facile pour lui, et il y aura beaucoup plus de difficultés pour quelqu'un d'autre. Mais c'est sûr que Dieu peut changer toute chose. C'est juste une question de en être averti au départ.
Et cela me fait penser à ce verset qui dit aux parents d'enseigner leurs enfants. Donc, en contrepartie aussi, les parents, et puis aussi puisque nous sommes beaucoup maintenant d'être grands-parents, je crois aussi que là aussi, c'est le rôle des grands-parents de pouvoir déjà parler aux petits-enfants et enseigner les enfants et les petits-enfants.
Juste insister sur un point qui a déjà été dit par Bernard, les jeunes... N'attendez pas de connaître quelqu'un qui vous intéresse pour prier. Le choix du conjoint est un choix qui engage pour la vie. On n'est jamais trop jeune pour prier pour ce choix, de se remettre à Dieu pour ce choix. Même adolescent, même préadolescent, on peut commencer à prier. Parce que si un jeune homme rencontre une jeune fille qui lui plaît, ou si une jeune fille rencontre un jeune homme qui lui plaît, après cette rencontre, commence à prier pour dire « Seigneur, tu vois, j'ai rencontré quelqu'un, montre-moi si c'est mon chemin. » Ce jeune a déjà une idée dans son cœur et sa prière n'est déjà pas objective. Elle est déjà conditionnée. Conditionnée par une rencontre, j'ai envie de dire c'est déjà trop tard pour commencer à prier. Il faut commencer à prier avant d'avoir quelqu'un en vue. Il n'est jamais trop tôt pour prier pour un engagement comme cela. On prie pour ses études, pour choisir des études, on prie pour choisir un métier. Cette décision-là est une décision importante. Et je voudrais ajouter quelque chose par rapport à l'exemple de Rebecca qui a été cité. Je ne sais pas si ça se pratique toujours, mais il y a quelque temps, un jeune homme allait voir une jeune fille en lui disant « Je viens te demander ta main car j'ai compris que c'était mon chemin ». C'était très à la mode de dire « c'est mon chemin » parce que ça donnait une impression d'être spirituel. Et les jeunes filles étaient impressionnées par cette formule « je viens te voir parce que c'est mon chemin ». Et je l'ai quelquefois dit aux jeunes, si quelqu'un vous dit « je viens demander ta main parce que c'est mon chemin », ne dites pas « oui » si ce n'est pas aussi le vôtre. Ça doit être le chemin des deux. Quand Rebecca a dit « oui », le serviteur d'Isaac lui avait raconté qui était son maître, lui avait expliqué ce qu'il faisait, lui avait parlé de sa vie, et quand Rebecca a dit « j'irai », elle connaissait déjà, sans l'avoir vu, et déjà elle avait envie d'aimer cet homme. Parce que le serviteur lui avait dressé un tableau, parce qu'elle savait vers qui elle allait. Elle ne s'est pas engagée juste après une question. Elle s'est engagée après avoir été avertie.